Bravissimi, bravi, bravi.
Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
Bonjour, c'est Fabien Andrian Arisoa. Fin de cavale pour le parrain des parrains. Matteo Messina Denaro, membre de l'organisation criminelle Cosa Nostra, a finalement été retrouvé en Sicile. On vous explique. Il se vante d'avoir rempli un cimetière à lui tout seul. On le surnomme Diabolique ou encore le Sec. Matteo Messina Denaro est considéré comme l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde. Atteint d'un cancer, c'est finalement à la clinique que les carabinieri l'ont arrêté. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
C'est une page qui se tourne. C'était le dernier grand chef mafieux de l'époque où le clan Corleone terrorisait l'Italie. On va vous raconter ce parcours criminel exceptionnel et monstrueux. Et puis on va vous raconter aussi comment, pendant 30 ans, il a pu échapper à la justice.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
Fabien Randrian Arisoa.
Là, on peut véritablement parler d'une prise de guerre pour la police italienne qui cherchait à mettre la main sur Matteo Messina Denaro depuis 30 ans.
Oui, 30 ans. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de photo de lui depuis 30 ans. La dernière photo dont disposait la police, c'était la photo d'un jeune trentenaire alors qu'il avait aujourd'hui 60 ans. La rumeur disait parfois qu'il était mort ou bien on croyait qu'il vivait aux États-Unis, au Brésil ou en Espagne. En réalité, c'est en Sicile qu'on l'a retrouvé, à quelques centaines de mètres seulement du principal commissariat chargé de rechercher les mafieux. Il était donc dans une clinique où il se faisait soigner pour un cancer du côlon. La police avait appris par des écoutes qu'il avait peut-être des problèmes de santé. Elle s'était mise donc à surveiller toutes les cliniques, tous les hôpitaux de Sicile et en particulier tous les hommes qui avaient à peu près l'âge du chef mafieux. Et c'est comme ça qu'il a fini par être arrêté, victime donc de son cancer.
Matteo Messina Denaro, qu'est-ce qui lui a valu de devenir l'ennemi public numéro un le plus recherché d'Italie ?
Eh bien, son parcours donc, au sein de la mafia. Au départ, c'était le fils d'un grand chef mafieux de Sicile, donc de la région de Corleone. Il a commis son premier assassinat très jeune. D'abord, un rival en matière amoureuse, donc quelqu'un qui draguait la même fille que lui. Et puis ensuite, à 18 ans, il a éliminé un de ses copains parce que celui-ci avait gardé un peu de la drogue qu'il était censé vendre. Et il est allé tuer cet ami en compagnie de son père, ce père qui lui a tout appris, qui lui a appris à tuer, à menacer, à racketter, à blanchir de l'argent et à se cacher. C'est ce qu'avait raconté Philippe Ridé dans une longue enquête du Monde sur la traque de ce mafieux. Matteo Denaro était surnommé le maigre ou le diabolique. Et donc, après ses premiers meurtres à 18 ans, il est passé aux choses sérieuses parce que pendant les années 70, on a assisté à une guerre terrible qui a fait des centaines de morts. C'était la guerre de deux clans siciliens, les Corleone et les Palermes. Lui était Corleone et il a participé donc à cette guerre. C'était ce qu'on appelait une gâchette, un porte-flingue ou plus simplement un tueur. Il a participé à un certain nombre de crimes absolument épouvantables, en particulier à celui de l'enlèvement d'un garçon de 13 ans, dont le père était un repenti. Le père était en prison et il commençait à parler sur l'assassinat du juge Falcone. Et pour essayer de le dissuader de continuer à parler, on a enlevé son fils et on l'a gardé 2 ans enfermé dans des conditions épouvantables pour faire pression sur son père. Et finalement, comme ça ne marchait pas, ce jeune garçon a été étranglé et son corps a été dissous dans de l'acide. Voilà quelques-uns des premiers meurtres et des premières horreurs commis par Matteo Denaro.
Ce qui est caractéristique de cette période où il a évolué dans la mafia, c'est que la mafia s'en prenait directement à l'État italien.
Et oui, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre entre la mafia et l'État italien. Il a participé donc à plusieurs attentats, dont celui qui a le plus marqué les Italiens, c'est l'assassinat du juge Falcone, le juge anti-mafia. 600 kilos d'explosifs avaient été placés dans un tunnel sous l'autoroute près de l'aéroport de Palerme et l'explosion a été déclenchée par télécommande au moment où passait le convoi du juge. C'était en 1992. Matteo Messina Denaro a ensuite été condamné à perpétuité en son absence pour avoir été un des commanditaires de ce crime-là. Il est aussi accusé l'année suivante, c'est-à-dire en 1993, d'avoir conduit des attentats à Rome, à Florence et à Milan, des attentats à la bombe qui avaient fait 10 morts et une centaine de blessés. À ce moment-là, il voulait faire pression sur l'État italien pour que l'on assouplisse les conditions de détention des mafieux condamnés à perpétuité, parce qu'il est vrai que ces conditions de détention étaient extrêmement sévères, avec un isolement total. C'était la guerre. Les mafieux étaient donc détenus dans des conditions très, très dures pour essayer de les faire parler. Parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Mais en tout cas, Matteo Messina d'Erano a tenté de faire pression sur l'État italien pour qu'il allège pour ces conditions de détention.
Matteo Messina Denaro, il avait beau être un fantôme introuvable pour la police, il a continué d'être un grand leader de Cosa Nostra. Comment est-ce qu'il se cachait? Comment est-ce qu'il vivait pendant cette cavale?
Une enquête du Monde, encore une fois, a décrit la vie clandestine des grands chefs de Cosa Nostra qui se planquent dans des masures, des petites maisons de campagne pourries qui moisissent, c'était le terme employé par l'article, qui moisissent comme des cloportes dans des appartements souterrains. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie luxueuse, la vie en cavale, c'est une vie d'enfermement total, avec une technique qui est très connue, c'est de communiquer par des petits bouts de papier écrits qui sont donnés à des messagers et qui vont les porter ensuite à différents interlocuteurs. Et généralement, on demande à ceux qui reçoivent ces messages de les lire et de les détruire aussitôt. Ça veut dire tout simplement que ce système des petits papiers permet de ne jamais utiliser de téléphone portable. Et naturellement, c'est très, très important puisqu'on sait que la police, généralement, finit toujours par attraper les plus grands criminels à cause de leur communication électronique, de leur mail, de leur SMS ou des écoutes téléphoniques. Donc eux, les mafieux, avaient totalement renoncer au téléphone portable. Alors, les juges antimafia avaient tenté pendant des années de faire le vide autour de lui et d'arrêter notamment tous ceux qui l'ont aidé à se planquer. Ses sœurs, ses frères, ses cousins, ses beaux-frères, ses neveux se sont tous, à un moment ou à un autre, retrouvés en prison. C'est ce qu'on a appelé à ce moment-là la politique de la terre brûlée, essayer d'attraper tout son entourage pour qu'il n'ait plus personne pour l'aider, mais ça n'a pas marché puisque la cavale s'est poursuivie, elle a duré plus de 30 ans. La justice a aussi essayé de le taper au portefeuille en saisissant tous ses biens, et il y en avait beaucoup, beaucoup, ça représente plusieurs centaines de millions d'euros, parce que depuis sa cavale, avec ses systèmes donc de petits papiers pour communiquer, mais il continuait à régner sur son empire. Il avait les activités traditionnelles de la mafia, le vol, le racket, le trafic de drogue, le trafic d'armes, mais des activités beaucoup plus traditionnelles. La mafia, c'est ça qui la différencie d'autres grands groupes criminels européens, c'est que c'est une entreprise économique. Le clan Corleone contrôlait des entreprises de BTP, de construction de routes, de ponts, très présents dans la grande distribution, donc les grandes surfaces. Et puis, ces dernières années, Matteo Messina d'Erano s'était beaucoup investi, figurez-vous, dans la construction des éoliennes, parce que c'est un secteur où il peut y avoir de la corruption pour obtenir le droit de faire pousser un peu partout sur l'île sicilienne des éoliennes. Donc il était à la tête de cet empire depuis la mort de Totò Riina qui était le grand chef historique de la mafia sicilienne, qui a été arrêté il y a exactement 30 ans, mais qui avait continué pendant plusieurs années jusqu'à sa mort en 2017. Il était censé être à l'isolement en prison, Totò Riina, mais c'est lui qui continue à tout faire. Tout ce dont on vient de parler, l'attentat contre le juge Falcone, c'est lui qui l'a organisé. L'enlèvement de ce petit garçon de 13 ans, fils d'un repenti, c'est lui qui l'a ordonné. L'assassinat de ce garçon, c'est lui. Totò Riina, en prison, pendant 30 ans, a dirigé la mafia. Puis Matteo Messina d'Erano a pris sa succession en 2017.
La question qui se pose maintenant pour les enquêteurs italiens, c'est de savoir, pendant 30 ans, qui l'a aidé et comment il a pu bénéficier de complicité puisqu'il a été arrêté chez lui en Sicile.
Et oui, ça intrigue, hein, puisque c'était vraiment l'homme le plus recherché d'Italie. Il a même été classé dans les 10 hommes les plus recherchés du monde à un moment. Les moyens de la police étaient considérables et malgré tout, il a réussi donc pendant 30 ans à échapper. Alors des complicités, évidemment, il avait des complicités villageoises. Hein. Il y a les gens qui le nourrissaient, qui le blanchissaient, qui le planquaient dans ses appartements souterrains. Mais au-delà, hein, ça ne suffit pas, ce n'est pas avec des villageois qu'il a pu échapper pendant 30 ans à la police. Teresa Principato, qui a été la grande chef de la lutte anti mafia pendant des années, qui s'est retirée maintenant. Elle a souvent dit que cette cavale l'intriguait, que c'était pas possible de rester aussi longtemps dans la clandestinité sans avoir des complicités politiques. Et elle a répété ces accusations très graves cette semaine après l'arrestation. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il va parler, ce chef mafieux ? Est-ce qu'il va dire, oui ou non, qui a pu l'aider parfois au plus haut niveau de l'État pendant toutes ces années ? S'il parle, il y a peut-être encore des gens en Italie, des gens importants qui risquent de tomber, mais c'est assez peu probable parce que la loi la plus importante des mafieux, c'est connu, c'est l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence.
« C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Fabien.
Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.